Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif.
Salut Chrysoline, comment tu vas?
Je vais très bien, et toi?
Très content de t'avoir, donc du coup je suis très content d'être ici.
C'est chouette, merci beaucoup pour l'invitation.
Bah écoute, avec plaisir, ça va être très sympa. Moi, cette marque Balzac Paris, l'ai connue grâce à ma copine.
C'est une grande... du Balzac?
Exactement, je lui ai offert aussi du Balzac. C'est une très grande fan de cette marque.
Génial. Donc,
je voulais m'intéresser un peu plus à l'histoire de la marque et à ton histoire aussi. Et du coup, c'est pour ça que je t'invite dans le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, évidemment de la marque, et puis d'entrepreneuriat au sens large du terme.
Yes.
Mais ma première question à chaque fois, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi?
Ah, intéressant. Je suis lilloise d'origine, donc je viens du Nord. J'ai grandi dans un environnement hyper serein, très aimant, avec... on est 5 filles à la maison. Donc j'ai 4 sœurs, donc une grande sororité. Un environnement très féminin, forcément. Voilà, que te dire de plus? Une très bonne entente avec mes sœurs, beaucoup de jeux, beaucoup d'imagination, beaucoup d'art aussi autour de nous, parce que j'ai un père qui adore justement l'univers de l'art, donc il nous a assez vite emmené, je dirais même traîné, parce que quand t'es petit, t'es pas ravi d'y aller, dans les musées ou dans les salles de vente. Mais aujourd'hui, je le remercie parce que ça a grandement, je pense, contribué à nos choix, à chacune, en tout cas professionnelle. Donc, un univers très, très solaire, super, très positif, avec beaucoup d'amis, de la famille, très agréable.
Comment se sont passées tes études? Qu'est-ce que tu as fait en études et comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que potentiellement, c'était pas des choses qui t'intéressaient?
Alors, si je reprends de la petite école jusqu'à mes études,
c'est long.
C'est long, c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Je dis quoi, même si j'ai pas envie d'y aller, j'ai mon Dieu, si tu savais. Mais non, j'étais pas une grande bosseuse à l'école, mais j'étais une grande bosseuse dans la vie parce que il fallait que je travaille pour avoir mon argent de poche. Donc, j'avais pas mal de petits boulots à côté. Donc c'était la vraie dualité entre peut-être un petit poil dans la main et à côté de ça courageuse pour aller gagner ma croûte. Mais une fois que j'ai commencé mes études, j'ai fait donc j'étais à la Cato qui est la faculté à Lille et j'ai fait un DEUG, ça existait encore à l'époque. Ça me rajeunit pas en communication. Et ensuite j'ai fait l'ISTC qui est une école de com aussi qui appartient à la Cato et qui elle va jusqu'au master 2. Et là, je trouve que tout ce qui est beaucoup plus concret, aussi
pratique,
pratique exactement. Et puis au-delà de ça, le fait de pouvoir avoir des stages notamment, on a eu la chance aussi de partir à l'étranger. Donc j'ai fait 6 mois au Mexique. Là, j'ai été vraiment passionnée parce que beaucoup de cas pratiques où justement tu fais des propositions pour des marques avec des idées. Et puis le champ des possibles s'offre à toi. Donc assez motivée par mes études, ouais, plutôt. Et puis Lille, c'est une ville qui est très étudiante. Donc, au-delà du côté purement, j'irais, scolaire, c'est un environnement qui est hyper sympa, en fait. T'as tes potes qui sont pas loin, c'est très festif. Donc, c'est des années qui sont... c'est des très bonnes années pour moi. Des très bons souvenirs.
Et donc, après tes études, tu te lances dans le community management.
Ouais.
Tu travailles pour plusieurs sociétés, notamment un premier magazine qui s'appelle Bubble Mag.
Ouais, tu sais tout.
Comment ça se passe, cette première expérience?
Écoute,
et pourquoi le social media t'attire, tu vois, à ce moment-là?
Ouais.
Parce que du coup, on est en 2011, donc le social media en 2011, on est dans, entre guillemets, voilà, les prémices,
ouais, ouais,
on va dire.
J'ai une bonne intuition, je voulais être journaliste à la base. Et en fait, donc après mes études, je fais 6 mois de stage aux versions Femina, qui a un titre du groupe Lagardère, et je suis en beauté pendant 6 mois. Ça me plaît énormément, j'adore écrire. Et puis ma boss, qui est aujourd'hui rédac chef du VF, me dit que c'est un univers qui est quand même assez bouché, où les places sont chères. Et ça me décourage pas, mais pour autant, ça me fait réfléchir à notamment comment me réinventer dans un secteur qui est celui de la presse, mais qui est aujourd'hui pas le plus porteur. Et je pense donc à ce métier qui est community manager, en geekant tout simplement sur Google, je pense, ou je sais plus comment je tombe là-dessus. Et je me rends compte qu'en fait, ça prend, que ça fait connaître aussi les marques. Pour autant, toutes les marques n'ont pas encore ce titre, enfin ce métier dans leurs effectifs. Et donc, je commence à candidater en spontané à droite à gauche, dont au Bubble Mag. Et j'ai toujours été attirée par l'univers de l'enfant, par la mode, par les bons plans sortis, etc. Et le Bubble Mag, c'était un gratuit qui justement évoquait tout ça. Et donc, je candidate en spontané chez Bubble Mag, également au groupe Marie-Claire. Et en fait, je suis rappelée par le Marie-Claire pour faire un mi-temps chez eux sur ce métier qui est le community management. Et donc, en parallèle, je travaille au Bubble Mag. Donc, mes journées se divisent entre Marie-Claire, Bubble Mag et également mon ancienne responsable pour qui je bossais chez Publicis en stage, qui a rejoint le groupe Alinéa en interne, m'appelle en me disant « Tiens, Criso, j'ai vu que tu faisais ça, Alinéa, on souhaite se lancer. Pour nous, c'est pas encore la prio, donc on va passer par une freelance. Est-ce que ça te dit de nous aider et nous accompagner ?» Donc, tu vois, je commence un peu à rouler ma bosse sur des secteurs aussi différents que sont la déco, le DIY avec notamment le Marie-Claire Idée, l'univers de l'enfant et de la mode avec le Bubble, et puis la déco, mais de manière plus internalisée avec Alinéa, parce que c'est une marque de décoration à proprement parler. Donc voilà, et c'est ainsi que je me lance sur ce métier et que j'en découvre les ficelles, en fait, au fil de mes années passées au Marie-Claire, parce que c'est très neuf pour moi. Et je te le disais, mais j'ai une bonne intuition, donc j'arrive à sentir les choses. Et c'est un métier qui me plaît, qui me parle, et puis en plus de ça, qui avait vraiment le vent en poupe à cette époque.
Donc effectivement, c'est outre la partie social media, ce sont tes premiers pas dans la mode.
Oui.
À quel moment est-ce que tu te dis, tiens, j'ai un affect particulier pour ce secteur ?
J'ai toujours eu un affect particulier avec ce secteur. Je te parlais de mon enfance, mais au-delà de l'univers de l'art qui plaisait beaucoup à mon père, j'avais une maman qui aimait bien justement tout cet univers qui est la mode. Donc, elle nous a, je pense, largement influencé et puis aiguisé l'œil. Sur ce secteur-là. En tout cas, on avait quartier libre aussi sur la manière dont on voulait se vêtir, nos partis pris en la matière. Donc, c'est un univers qui m'a toujours beaucoup plu. C'est ce pourquoi aussi j'avais une petite graine plantée dans mon esprit de pourquoi pas un jour, faire quelque chose dans cet univers-là. Donc, le Marie-Claire, c'est offert à moi, si tu veux, sur le plan déco et do it yourself. Il y a plein de choses qui se regroupent dans l'univers que sont la déco, la beauté, la mode. Mais c'était un premier pas aussi, je pense, dans l'univers qu'est la mode. Et donc, Balzac s'est imposé à moi de manière très naturelle, parce qu'on en parlera très certainement, mais ça s'est fait de manière très organique, parce que Balzac s'est monté en parallèle du groupe Marie-Claire. Donc, si tu veux, j'ai mis un premier pas dans la mode, mais j'avais aussi mon boulot à côté qui me nourrissait. Mais voilà, c'est vraiment une passion, ou en tout cas un univers qui me plaît depuis toujours.
Ouais, effectivement, t'en parles. La particularité de Balzac, c'est que ça s'est lancé en side project,
ouais.
À côté de ton job. Et outre ça, c'est aussi une histoire de famille. Parce que tu as cofondé ça avec ton beau-frère et ton mari.
Mon mari,
exactement.
Ouais.
En 2011. Et en 2011, Balzac n'est pas du tout ce qu'est Balzac aujourd'hui.
Non.
Tu peux me raconter.
Balzac s'appelle déjà Balzac. Mon mari n'est pas encore mon mari. Et Charles n'est pas encore mon beau-frère. Ah oui, donc tu vois, on avait tout à construire ensemble. Avec Victor,
donc
on
c'est
était.
C'est trois potes, en fait.
On était en couple.
Okay.
On était en couple. On s'est mariés pendant l'aventure, en tout cas le début de l'aventure Balzac. Charles, c'était le meilleur copain de Victor depuis qu'ils étaient petits. Et il s'est marié avec ma sœur. Et donc, en effet, c'est une histoire de famille parce que on se retrouve avec Charles et Vic, si tu veux, un dimanche soir, on avait claqué la porte de notre appart et laissé la clé à l'intérieur de celui-ci. Donc, on dit toujours que Balzac, c'est l'histoire d'une clé perdue. Et Charles nous dit, tiens, venez dormir à l'appart, ça coûtera moins cher de faire passer le serrurier un lundi. Donc, on dort chez lui et là, on regarde la télé et on se rend compte que il y avait une jeune fille qui faisait des nœuds papillons fabriqués en France sur mesure qu'elle cousait elle-même. Qui crée une queue assez remarquable dans l'escalier en colimaçon de son petit appartement parisien. Et je regarde Charles Lévy, je leur dis, bah tiens, le nœud pape, ça a l'air de prendre. Il n'y en a pas non plus full sur le marché, si ce n'est celui qu'on connaît en satin noir, déjà précousu, en tout cas, qui n'est pas à nouer soi-même. On essaie. Ma sœur Clem, donc, qui est la deuxième de la famille, sait coudre et elle peut peut-être nous accompagner sur le projet. Moi, je te le disais, mais j'ai quelques ficelles sur le métier qui est blog, community management. Donc, je peux prendre cette casquette-là. Et puis, j'ai une bonne intuition. Et vous, vous avez la casquette plutôt financier, business model. Donc, à trois, en tout cas, il semblerait qu'on forme une équipe pas trop mauvaise. Donc,
plutôt complémentaire.
Ouais, hyper complémentaire. Et puis, une grande envie d'entreprendre, et je t'en parlais au début avec ce côté un peu démerde, mais le côté lillois et envie d'entreprendre, de dire bah tiens, on essaie, et au pire ça fera une expérience en plus sur notre CV, mais ça se lance, que tu me disais, mais en parallèle de nos boulots, donc si
rien
ça fonctionne
perdre.
Pas, on a rien à perdre, on a entre guillemets la sécurité financière qui fait qu'on est relativement serein, et donc voilà, on se lance tous les trois. Je geek de nouveau avec ma petite sœur sur un nom de marque, en sachant que on savait que c'était des nœuds papillons fabriqués en France sur mesure. Et là, on trouve un texte d'Honoré de Balzac qui a écrit en 1830 un traité sur la vie élégante dans lequel il parle de comment porter le nœud pape quand on est un homme. Et là, Gwen, ma petite sœur, me dit « Attends, c'est extra, ça sonne français. La littérature, en plus, c'est... » Enfin, en l'occurrence, Honoré de Balzac, c'est un monstre de la littérature qui parlera à tous. Donc, on cherche de nouveau si jamais Balzac est encore disponible et utilisable pour une marque de mode. Ça l'était. Donc, on le dépose. Et l'aventure Balzac commence ainsi avec un nœud papillon qui prend son envol.
Puis effectivement, le nom Balzac est tombé dans le domaine public.
C'est ça, ouais, exactement. Ouais, tout à fait.
C'est marrant, le timing s'est fait que...
Alors, c'était, je pense, tombé dans le domaine public. En fait, c'est à partir du moment, c'est une certaine année après la mort de la personne en question que ça tombe dans le domaine public. Mais c'est vrai que c'est un coup de chance que ce nom soit encore disponible. Alors, t'as un hôtel Balzac, de temps en temps, t'as des gens qui appellent pour réserver une chambre. On les redirige gentiment vers la bonne personne. Mais il y avait personne, en tout cas, qui avait imaginé qu'Honoré de Balzac puisse être une marque de nœuds papillons et de mode aujourd'hui. Mais ce qui fait sens, parce qu'il avait un vrai attrait pour cet univers qu'est la mode. Et au-delà de se traiter de la vie élégante, il écrivait toutes les semaines dans un journal de l'époque une rubrique sur justement des conseils en sur la manière de se vêtir. Donc si tu veux, on ne lui fait pas non plus un coup bas. aujourd'hui, il ne se retourne pas dans sa tombe à l'idée d'être à la tête d'une marque de mode.
Ok, génial. Comment se passent ces premières semaines, ces premiers mois en termes de vente, en termes de retour?
Sur le nœud pape ou quand on se
sur le nœud pape, exactement. Ouais.
Sur le nœud pape, ça se fait de manière hyper organique. Si tu veux vraiment, le nœud pape était vraiment en train de revenir sur le devant de la scène. C'est un produit qui est hyper cyclique, qui va et qui revient. Et là, il avait vraiment toute la lumière était sur lui. Et donc, j'ai une sœur qui était attachée de presse, qui l'est toujours parce que c'est aujourd'hui l'attachée de presse Balzac, qui me dit tiens, j'ai une journaliste qui cherche une marque de nœud papillon pour le Madame Figg. J'ai essayé de parler de toi, on verra si ça passe. Et donc, me voilà en train de faire une photo de nœud pape avec un cintre sur un fond blanc dans mon appart de l'époque. Et puis, coup de chance ou pas, parce que le produit était certainement sexy, on est sélectionné. Donc, si tu veux, au-delà des copains qui achètent au début ton produit, ça commence à faire effet boule de neige. Et puis, la marque fait parler d'elle dans le Madame. Moi, j'étais donc au groupe Marie Claire, donc j'avais des amis aussi qui étaient blogueuses, influenceuses, notamment une amie qui s'appelle Delphine et qui avait un blog qui s'appelle toujours le blog de Didi, qui parle aussi de nous. Donc voilà, en fait, une certaine couverture médiatique qui fait que ton référencement naturel devient plus ou moins sympa, que lorsque tu cherches nos papillons sur la toile, et ben c'est Balzac Paris qui remonte. Et donc, les potes achètent, puis ensuite, c'est plus les potes, c'est les gens que tu connais pas. Et c'est là que ta marque, en fait, commence à tout doucement prendre son envol et grandir.
Et puis du coup, un rapport très tôt aussi avec le monde de l'influence et avec les créateurs. Puisqu'on est, encore une fois, on est assez tôt, donc tout ça est assez nouveau, finalement.
Tout ça est assez nouveau. Alors après, les blogs, ça existait quand même déjà.
Les blogs, oui, mais le côté, tu vois,
mais l'influence, en effet, c'était assez nouveau, t'as raison, ouais, tout à fait. Mais en fait, si tu veux, le produit était sympa, il était français, il était fabriqué en France, sur mesure, avec un vrai savoir-faire. Il y avait une vraie histoire d'entrepreneur, d'amis, de famille déjà à l'époque. Et donc, ça nous montrait aussi, nous, si tu veux, en tant qu'entrepreneurs, à côté de notre job respectif, ça mettait en lumière que Balzac, il fallait que ce soit une aventure qui soit familiale, qui mette le conso au cœur de tout, que le client avait envie de participer activement au processus créatif de la marque. Donc, ça nous a donné des grandes lignes directrices sur le Balzac d'après. Et c'est ce pourquoi le projet Balzac au global s'est fait de manière très organique, mais sur des bases très solides, qui étaient finalement celles d'une pape, qui sont encore celles de Balzac d'aujourd'hui.
À quel moment est-ce que vous switchez de side project à boîte business à temps plein, tu vois ?
2014, je change de boss au Marie-Claire. Et puis, l'équipe, si tu veux, part aussi au fil de l'eau. Moi, j'avais une grande affinité avec toutes mes collaboratrices de l'époque. Ce projet qui, en plus de ça, fonctionnait bien. Moi, mon envie d'entreprendre grandissait. Et Vic, mon mari, me disait, Criso, moi, mon boulot aujourd'hui en finance, ça se passe bien. Je peux assurer tes arrières si jamais ça se passe pas bien pour Balzac. Et puis, au-delà de ça, moi, j'avais ce métier de community manager qui fonctionnait plutôt bien. Et je savais, j'avais la liberté d'esprit de me dire si ça fonctionne pas pour Balzac, exactement, je retrouverai du boulot en fait. J'étais pas inquiète si tu veux, je faisais un saut dans le vide, mais j'avais pas la boule au ventre, tu vois. J'avais un parachute. Exactement, très jolie métaphore. Donc, je fais ce grand saut en 2014 et Charles lui aussi quitte son boulot à l'époque pour se lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. Et donc on se dit avec Charles et Vic, on réfléchit puis on se dit le NEPAP c'est chouette, c'est bien, c'est admis quand même à disparaître. Pour le retour de la cravate, c'est un produit qui est cyclique, il reviendra, mais faire tout un business sur lui, c'est quand même peut-être un tout petit peu compliqué. Donc, on réfléchit au produit d'après, au coup d'après, comme on dit, avec en tête l'homme et la femme. Et là, on lance le sweatshirt littéraire qui met en lumière des couples d'auteurs célèbres. Donc, on continue à surfer sur cette vague littéraire qui plaisait énormément à nos clientes. Honoré et Français, Jean-Paul et Simone, Alfred et Georges. Ce sont les couples d'auteurs qu'on met en lumière avec notre sweat Balzac Paris. Et là, succès, gros succès aussi pour celui-ci, puisque 50% des pièces s'écoulent de manière très rapide. Belle couverture médiatique, je sens que le glamour nous met en homepage de son site. Et puis, les femmes en tête d'achat, vraiment, ça semble être le segment de clients le plus représentatif. Et donc, on se dit, tiens, en fait, la femme, elle a quand même un attrait à la mode qui est différent de celui de l'homme. Je le dis souvent, mais le comportement d'achat est plus réfléchi chez l'homme. Il est aussi plus destiné à des moments clés de l'année, vs la femme qui a un comportement plus impulsif. Donc, on se dit, on va faire une mode qui soit exclusivement féminine, qui sera vendue en édition limitée. Et puis déjà, de la même manière que l'influence de community management était, je dirais, avant-gardiste, on se dit on va faire une mode responsable, une mode différente, une mode autrement. En 2014, c'est assez novateur et assez peu de marques le faisaient. Mais pour nous, c'était des convictions fortes de dirigeants, très autodidactes en la matière, mais au moins, on partait pas avec des idées reçues, si tu veux. Donc voilà, c'est comme ça que l'aventure Balzac est née avec le projet plus large qu'est celui d'un vestiaire féminin.
Comment se passe cette toute première collection ? De trouver les bons fournisseurs, les bons ateliers,
difficile.
Et même dessiner ces collections, comment est-ce que ça se passe ?
Écoute, ça j'ai beaucoup de choses à te raconter parce que moi je suis très autodidacte, donc j'ai pas de formation styliste, je te le disais, mais j'ai un master 2 en com et donc en rien, je suis une créative, mais pas de mes mains. Et donc, je m'entoure bien. À l'époque, la difficulté, c'était de trouver les bonnes usines. C'était de trouver la bonne modéliste, la bonne styliste pour m'accompagner. Et là, il faut retrousser ses manches, partir enfoncer des portes fermées. Et donc, avec Charles, on se retrouve dans tout Paris à aller chercher des fournisseurs qui allaient bien vouloir créer cette collection que j'avais imaginée avec des modélistes en freelance pour nous. Et c'est le cas, on trouve des usines qui sont OK pour bosser pour nous, qui sont des usines parisiennes. Donc le Made in France, c'était notre choix de départ. Et là, on se dit OK, c'est parti. Ça coûte quand même assez cher. Et puis en plus de ça, Scandi l'étiquette, elle a l'air moins glorieux que ce qui se passe en réalité. Ouais. Je l'explique à plusieurs reprises, mais t'avais
les conditions de travail qui n'étaient pas optimales.
Donc on réfléchit à comment on peut, si tu veux, industrialiser notre modèle à plus grande échelle. Et là, le Portugal semble une solution qui est la bonne, parce que les clients n'ont pas l'air de trouver ça moins responsable de fabriquer en Europe qu'en France. Et elles nous suivent, en fait. On communique vachement avec elles. Moi, je tenais un blog à l'époque où je racontais un peu toutes nos aventures, voire mes aventures. Et je leur pose la question. Je les mets vraiment très, très rapidement au cœur de tout. Et elles nous disent non, pour nous, le Made in Europe, c'est tout autant à valoriser qu'est le Made in France. Et nous voilà partis au Portugal avec l'idée de faire de Balzac une marque qui soit confectionnée en édition limitée. Donc, il fallait convaincre les usines de faire des chaînes de prod qui soient à plus petite échelle, vs ce à quoi elles étaient habituées. Mais notre discours devait être suffisamment convaincant. Donc, on tape dans la main de plusieurs usines qui nous suivent encore aujourd'hui, pour lesquelles, qui bossent encore avec nous aujourd'hui. Et puis, on trouve un agent aussi au Portugal qui a été aussi le début de l'aventure, qui a signé le début de l'aventure, parce qu'elle avait vraiment un pied dans cet écosystème qui est celui de Porto, avec toutes les bonnes usines, les bons faiseurs, les fournisseurs tissus aussi. Mais voilà, se fournir des métrages de tissus en petite quantité, c'est la croix et la bannière. Donc, je vais beaucoup dans le sentier à l'époque pour acheter des métrages, des fins de rouleau qui sont donnés par des marques qui s'en débarrassent. Et ça me prouve aussi qu'il faut faire une mode qui traverse les saisons, et que la temporalité, elle doit être assez étirée dans le temps, et il faut pas copier-coller les tendances, parce que sinon ton tissu est vite désuet, parce que je voyais des tonnes et des tonnes de tissus qui étaient revendus justement par les marques à ces revendeurs de tissus, et je me disais, le jour où nous, Balzac, on pourra acheter du tissu en quantité suffisante, il faudra qu'ils puissent traverser les saisons pour que mes collections, elles soient pas désuées au bout de 6 mois. Il faut que mes collections, elles soient, qu'elles durent dans le temps et surtout dans le placard de mes consos, qu'elles aient envie de les garder longtemps. D'où notre mission, et je brûle certainement les étapes par rapport à tes questions, mais d'avoir une mode désirable et durable.
Ouais. Je reviens sur le Portugal. T'as une relation un peu plus particulière avec ce pays, parce que tes parents y habitent.
Ouais, ouais, ouais.
Si je dis pas de bêtises.
Non, tu dis vrai.
Comment est-ce que ça s'est passé, justement, ces premières rencontres avec les usines au Portugal, comment est-ce qu'ils ont perçu ce projet? Est-ce que ça a été assez simple? Ou est-ce que très rapidement, vous avez trouvé les bons partenaires et ça s'est fait assez rapidement?
En fait, la plus grande difficulté, c'est de trouver le bon agent. Parce qu'en effet, et tu le dis bien, aller toquer aux portes des usines en disant « Voilà, on s'appelle Balzac, on est à peu près inconnu au bataillon, mais ça va être formidable, vous allez voir, vous allez faire beaucoup d'argent avec nous. » C'est pas si évident, alors qu'un agent, il a d'autres clients. Donc, si tu veux, il a le poids de pouvoir dire « Bon, moi, je vous fais taffer pour X, Y, Z. Là, Balzac, c'est un nouveau, j'y crois. En plus de ça, j'ai du pif, parce que les clients pour lesquels je vous fais bosser aujourd'hui, ils font tourner vos chaînes de prod. Donc, suivez-moi. » Donc, t'as le poids, en fait, de l'agent qui a déjà un portefeuille de clients qui va faire qu'il va arriver à convaincre des usines avec lesquelles il a une relation et une affinité forte. Donc ça, c'est aussi la clé du succès, c'est d'avoir, si tu veux, avec tes usines, une relation de confiance et qui dure dans le temps, où c'est un vrai rôle de commercial, en fait. Et voilà, et donc notre discours auprès d'Anna, qui est notre agent, avec Charles, a été suffisamment convaincant pour lui expliquer que Balzac, oui, c'était des plus petites quantités, mais on allait faire tourner leur chaîne de prod de manière plus régulière. Et ça, je pense que c'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille sur le fait que, en fait, les modèles économiques des marques étaient en train de changer et que peut-être les clients allaient avoir envie aussi d'avoir des quantités, des éditions limitées. Et ça passait aussi par des chaînes de prod qui étaient plus petites. Donc, facile, non. Difficile, oui. De la France jusqu'au Portugal, c'était un long chemin. Pour autant, Anna, c'était la clé d'entrée pour pas mal d'usines.
Ouais,
et puis ça, c'est une certitude.
Le Portugal est quand même devenu un pays extrêmement puissant en termes de fabrication de vêtements, de chaussures, etc. Je crois que dans le Made in Europe, clairement, le Portugal doit être dans peut-être top 1 ou top 2 des pays qui fabriquent le plus, je pense.
En fait, tu as plusieurs spécificités. Si tu veux, en fonction du produit que tu veux fabriquer, tu as plusieurs pays qui s'offrent à toi. Donc là, par exemple, l'Italie, ils sont excellents pour la maille. L'Europe de l'Est sont excellents sur tout ce qui est pièces à manches, parce que c'est des grands faiseurs de tailleurs depuis toujours. Ils bossent pour des gros groupes d'hôtellerie, par exemple. Donc, ils maîtrisent extrêmement bien tout ce qui est tombé pantalon un peu lourd, les pièces à manches plus structurées. Donc, quand le Portugal va être très bon sur tout ce qui est flou. Le flou, c'est tout ce qui est blouse, robe, jupe. Mais ils sont excellents aussi sur la maille. Ils sont très bons aussi sur l'accessoire. En tout cas, nous, ils nous accompagnent depuis tellement de temps que, par exemple, un modèle iconique qui est le César, qui est chez nous un sac à main, qui aujourd'hui est un vrai marqueur de l'ADN de marque. On a commencé à le fabriquer au Portugal. Donc, il a une chaîne qui est tressée à la main. Et c'est vrai que quand tu le contre-types dans d'autres usines pour aller gagner en marge, donc quand tu vas le contre-typer en Italie, par exemple, en fait, la main qu'on a réussi à avoir avec notre faiseur portugais, on n'arrive pas à l'avoir en Italie aujourd'hui. Donc voilà, il y a aussi ce partenariat de confiance où, en fait, quand tu imagines un produit main dans la main avec l'usine, tu vas aussi le façonner. Et puis, l'usine, tu vas aussi lui apprendre à confectionner ton produit comme toi tu l'entends. Donc oui, le Portugal est évidemment un partenaire qui compte et j'imagine un très gros faiseur en Europe, mais l'Europe au sens large du terme a des spécificités en fonction des pays qui sont propres à chacun. Et la France est en train d'être un partenaire qui compte pour Balzac, puisque on a certaines mailles qui sont confectionnées en France, on fait partie du collectif Tricolore.
Oui.
Donc on a la chance de pouvoir avoir certaines usines qui confectionnent pour nous et qui ont également la tonte des moutons qui est fait non loin de là où l'usine fabrique. Donc c'est assez large notre parc fournisseur, si tu veux. Nous, notre idée, c'est vraiment d'aller là où il y aura le plus beau savoir-faire pour pouvoir offrir à la cliente un rapport qualité-prix qui soit juste avec cette notion de prix juste qui est importante pour Balzac.
Possible, ouais, exactement. Pour revenir à cette première collection, quand tout est bouclé et que on appuie sur le bouton mise en ligne, comment est-ce que ça se passe?
T'es très excitée. Après, tu sais que t'as un gros boulot qui t'attend parce que t'es à la fois modéliste, styliste à l'époque, donc aussi directeur d'achat, sourceur. T'as toutes les casquettes, mais t'es aussi logisticien. Et ça, c'est pas la partie la plus fun, mais pour autant, c'est celle qui met le point final à ta commande quand le client a cliqué sur « j'achète ». Il a envie d'avoir le produit assez vite dans sa boîte aux lettres.
C'est une partie extrêmement importante.
Ouais. Et donc, en fait, c'est une partie qui est extrêmement importante et qui est, je dirais, la finalité de toutes les parties qui ont été mises, qui ont été orchestrées avant. Donc, avec Charles, on s'est improvisé logisticien. On était à la poste de nombreuses fois avec des cabas bien remplis et tant mieux. Ça veut dire que notre marque plaisait déjà à l'époque. Mais t'es dans les starting blocks pour justement assurer un service client optimal. Et on le sait, le service client et l'expérience client doit être au cœur de tout. Et c'est ça qui fait que ta marque perdure. Et en l'occurrence, t'es à la fois très excité et en même temps prêt à dégainer pour pouvoir envoyer tous tes produits à tes clientes. Donc, à partir du moment où on a eu un logisticien, chez Balzac, ça a été pour nous un vrai soulagement, si tu veux. Parce que au-delà du fait de se soulager, je dirais, sur le plan opérationnel et envoi des colis, tu sais que tu as affaire à un pro dont c'est le métier.
Qui va être efficace.
Et ça ne consiste pas, en fait, d'être logisticien, si tu veux.
C'est un métier.
C'est un métier et c'est un métier qui est extrêmement important.
Oui, parce que c'est le dernier élément de cette chaîne qui est déjà
dernier maillon de la chaîne.
Extrêmement important,
ouais,
tu vois.
Oui, tout à fait. Mais et c'est ce que la cliente retient, en fait. C'est ce que la cliente retient de mon colis est arrivé à l'heure dans ma boîte aux lettres. Il n'est pas arrivé abîmé, parce que même si jamais il est abîmé par la poste, le client considère que c'est ta faute. Mon expérience client, quand j'ouvre mon colis, elle est sensorielle, il se passe des choses. Et ça aussi, ça contribue largement au fait que la cliente va avoir un affect fort à ta marque. Donc oui, on est très excités parce que on a envie de voir si jamais les produits plaisent et se vendent, et on est aussi prêt à attaquer l'expérience logistique.
C'était quoi la partie du processus que tu préférais le plus à ce moment-là?
Moi, c'est clairement le produit. Ça a toujours été, et ça l'est encore aujourd'hui, le produit et puis le storytelling, ce que tu racontes autour de ta marque, tu vois, toutes les petites cartes qui s'en déclinent, tout ce que tu vas raconter autour du pantalon, pourquoi t'as imaginé un pantalon à bretelles plutôt que une salopette ou un pantalon tel qu'un jean. Enfin, t'as énormément de choses à raconter autour du produit pour embarquer la cliente et créer un affect fort. Je te le disais au début du podcast, mais je pense que Balzac, c'est des vêtements qui durent et qui perdurent et qui donc, je l'espère, restent longtemps dans le vestiaire de la cliente. Et ça passe aussi par l'histoire que tu lui as racontée, parce que des vêtements finalement et des marques, il y en existe des tonnes, mais celles avec une vraie histoire et un sens, il y en a peut-être un peu moins. Donc, pour moi, ça a été très important dès le début. Donc, évidemment, du dessin du produit jusque la manière dont il se la raconte, c'est ce que je préfère.
Step by step, comment est-ce que tu travailles sur ces collections aujourd'hui? C'est quoi le processus, tu vois, de l'idéation à la mise en ligne?
Je travaille donc avec une équipe produit qui est composée à la fois d'une directrice du style, de styliste, de modéliste, de chef de produit et de tout ce que compose aussi la réflexion autour de celui-ci, en sachant qu'il y a ma directrice produit et il y a ma directrice du style. Donc, je vais donner une thématique à ma directrice du style en lui disant, voilà, pour la collection automne-hiver, printemps-été, j'ai imaginé qu'on pouvait travailler sur cette thématique. Et puis en fonction, elle travaille main dans la main avec ses stylistes pour pouvoir donner du corps, du sens et puis imaginer les produits qu'elles peuvent dessiner en fonction de cette thématique, ce qui va les inspirer. On a de nombreux échanges autour de cette thématique pour ajuster et affiner. Donc c'est vraiment un travail main dans la main. Et une fois qu'on a posé les bases, qu'on est d'accord sur comment exprimer cette thématique, on va la diffuser plus largement à toute l'équipe Balzac, donc au market, aux produits, et puis à la team Balzac au sens large du terme. Donc c'est comme ça que se fait le point de départ. C'est vraiment moi qui donne, en fonction de l'intuition que j'ai sur ce que vont avoir envie d'entendre les clientes, le discours qui va les toucher, je le donne à ma directrice du style, qui ensuite elle le transforme, me le rapporte. Et une fois qu'on est OK, on dessine. Et puis moi, je fais partie intégrante du process de validation. C'est-à-dire que toutes les pièces qui existent aujourd'hui chez Balzac, je les ai validées.
OK, génial. Comment est-ce que sont fabriqués les produits Balzac? Je sais que c'est 100% Europe,
ouais.
80% Portugal et 80% matière éco-responsable. C'est ça?
T'as essentiellement, si tu veux, enfin aujourd'hui, oui, le Portugal, c'est notre partenaire le plus présent, le plus représenté. Je t'en parlais tout à l'heure, mais t'as l'Europe de l'Est, t'as l'Italie, l'Espagne et puis la France, qui sont les pays les plus représentés. Après, en termes de sourcing, on a évidemment un sourcing qui est responsable à plus de 90%, voire plus, puisque si jamais le tissu n'est pas responsable, c'est que c'est une fin de stock qui a été rachetée à soit une marque qui a donné son tissu à un revendeur de tissu et donc ils nous sont proposés, parce qu'on part du principe que la matière qui pollue le moins, c'est celle qui existe déjà. Donc on est vraiment toujours dans cette logique de démarche responsable, c'est-à-dire que toutes nos actions Balzac sont vraiment pensées en ce sens sur tous les maillons de la chaîne. Donc notre sourcing, il est vraiment fait de telle manière, et en effet, le produit Balzac, il est, je le disais, mais imaginé de manière responsable et désirable, parce qu'il ne faut pas oublier la désirabilité du produit qui doit évidemment être au cœur de tout, parce que la cliente, quand elle achète un produit Balzac, elle est très certainement sensibilisée au discours éco-responsable, parce qu'à titre personnel, c'est des choses auxquelles elle fait attention. En revanche, ce qui va la saisir dans un premier temps, c'est le visuel. Donc, il faut que ces deux éléments soient traités de la même manière. Pour nous, c'est très important.
On n'en a pas encore parlé, mais Balzac, c'est une entreprise à mission. Est-ce que tu peux me parler de ce label, entre guillemets?
Balzac, c'est une entreprise à mission dont on est fier. C'est avec une mission qui est écrire un monde où le désirable est durable et le durable désirable. C'est ce pourquoi je te disais qu'il faut vraiment que les deux éléments soient traités sur la même longueur d'onde. Et donc, une entreprise à mission, ça veut dire quoi? C'est quelque chose que tu inscris dans tes statuts avec un processus assez clair, avec un comité de mission qui te challenge justement sur tes missions du quotidien, sur comment être une marque toujours plus responsable, parce que le TPR, c'est un leitmotiv qu'on a chez Balzac et qui nous anime tous. Et donc, ce comité de mission va te challenger sur comment tu peux mieux faire, sur comment tu peux aller encore plus loin, sur comment ajuster ton fusil d'épaule. Et nous, ça nous permet d'être dans une constante logique de progression, parce qu'on peut toujours mieux faire, on peut aller toujours plus loin. Donc voilà ce que ça veut dire aujourd'hui l'entreprise à mission chez Balzac Paris.
Ouais, Balzac, ça a été créé du coup en 2011, ouais. Cette version de Balzac en 2014. Quelles ont été un peu les grandes étapes, tu vois, depuis 2014? Et ce qui aussi est ultra intéressant, c'est le passage du 100% e-commerce à l'ajout du retail et ouais. L'omnicanalité, et notamment avec l'ouverture de deux boutiques à Paris.
Une boutique.
Une boutique.
Ok. Ouais.
Je vais peut-être trop d'avance. Comment ça s'est passé, tu vois, cette évolution et du coup cet ajout de ce côté retail.
Ouais.
D'une
Écoute,
très belle boutique.
Écoute, l'évolution, ouais, t'y allais.
Ouais.
Ouais, elle est très belle, on est hyper fiers. L'évolution, elle est, je le disais, assez organique. Ce qui, donc, évidemment, tu recrutes pour faire évoluer ta marque. Donc, d'abord, tu vas aller vers des métiers tels que le stylisme, le modélisme, qui sont le cœur du réacteur de Balzac Paris aujourd'hui, parce que ce qu'on vend, c'est un produit, c'est un accessoire. Donc, il faut étoffer, évidemment, ton équipe avec des métiers qui soient purement dédiés à cette spécificité-là. Très vite, on a recruté aussi sur le service client. Le client est au cœur de tout chez Balzac, et donc il fallait qu'il y ait une personne qui puisse répondre au quotidien à ses clientes qui ont des questions, parce que on leur dit, vous êtes au cœur du processus créatif, ces vêtements, ils sont imaginés pour vous, avec vous. Donc elles, évidemment, elles ont des questions à te poser avant de passer à l'acte d'achat. Donc l'équipe a grandi de manière assez organique, mais en 2016, on lève des fonds et on décide d'accélérer, aussi bien sur la partie équipe pour structurer, senioriser, et puis aussi accélérer sur tout ce qui est dépenses, à la fois donc marketing, tout ce qu'on en connaît, que sont le paye, le début des achats, etc. Et puis on devait changer de bureau parce que on était dans 60 mètres carrés, on commençait à être un tout petit peu serré. Donc voilà, donc c'est un vrai fait marquant pour Balzac, si tu veux, de lever des fonds, parce que ça te permet d'accélérer,
ouais,
et de senioriser tes équipes, et donc par définition de structurer. Donc voilà, quelles autres grandes étapes pour Balzac? Je pense que là, donc, tu continues à grossir, à développer aussi tes catégories de produits, à avoir une offre qui est de plus en plus étoffée. Tu structures ton offre aussi de telle manière que tu as tes saisonniers, donc qui sont tes produits qui sortent tous les mois, qui constituent tes nouveautés. Et puis, on imagine aussi que la cliente, elle aime Balzac aussi pour ses éternels, qui sont des produits iconiques, des indispensables, des basiques du vestiaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez structurant pour nous, parce que tu divises ton offre, tu l'imagines avec ce que je te disais, des temps de sortie différents, puisque tes éternels, ils sont là tout le temps, VST et saisonniers, donc tu réfléchis à acheter aussi de manière différente. Tu peux aussi challenger tes fournisseurs différemment, parce que tes éternels, tu les achètes dans des quantités qui sont plus importantes, parce qu'elles sont admises à durer sur du printemps-été et de l'automne-hiver. Donc, ça a été une étape aussi importante pour nous. Et puis, le confinement, je vais pas vous mentir, parce que tu as un vent de panique de te dire qu'est-ce qui se passe. Je suis dans un moment que, évidemment, personne ne connaît. Et puis là, tout le monde le sait, mais le e-commerce, à cette période de vie d'une marque, ça a été une vraie croissance assez rapide, parce que les clientes répondaient à l'appel, elles étaient au rendez-vous. Donc c'est un moment où on a pas mal recruté, on a aussi beaucoup accéléré. Donc Balzac grossit beaucoup pendant la période du confinement.
C'était un vrai booster.
On a toujours été en croissance, Ça a toujours été une marque qui a été en croissance, mais c'est vrai que cette période-là a été une croissance assez forte, un vrai marqueur de croissance. Et donc, on accélère, on grossit, on grandit. Fin de confinement, on se retrouve donc avec une équipe qui, elle aussi, a beaucoup grossi. Ouais. Donc, qui admet être structurée différemment, on réfléchit différemment, on structure beaucoup plus les pôles. Si tu veux, nous, on avait un management aussi qui était assez direct avant. Là, il y a un middle management qui s'installe. Donc, t'as plusieurs vies de boîte.
C'est partie de l'évolution.
Exactement. J'en ai pas parlé, mais t'as la boîte où t'es en direct avec les fondateurs et puis tout d'un coup, ce middle management qui s'installe, même si jamais on plane perpétuellement sur les équipes parce que on pense que c'est ça aussi qui fait la force d'un Balzac, c'est d'avoir ces fondateurs qui sont là pour faire perpétuer l'ADN et nourrir aussi les personnes qui sont trop jeunes en interne.
Exactement.
Donc ça, c'est un élément marqueur assez fort. Et puis, après le confinement, on décide donc d'ouvrir une boutique. Donc là, tu as une réflexion de 2 ans, c'est assez long, parce que tu recherches un espace qui soit le plus opportun.
Plus adapté aussi.
Le plus adapté,
à la vision.
À notre vision. Et voilà, et là, en 2022, on ouvre donc l'adresse Balzac Paris. Donc Balzac Paris devient une marque omnicanale. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Balzac, entre-temps, mais du coup c'est long de tout retracer, mais lance l'enfant, lance aussi le parfum, donc met un premier pas dans la beauté. Donc Balzac, c'est une marque en fait que tu consommes, si tu veux, de manière assez... c'est une vraie philosophie de vie, c'est un vrai way of life en fait de consommer du Balzac parce que t'adhères à des valeurs qui sont fortes. Donc on étend aussi le champ des possibles chez Balzac, on ouvre nos marchés avec l'enfant, avec le parfum, et en septembre 2022, on ouvre l'adresse Balzac Paris. Donc là, c'est un élément évidemment très structurant pour une marque, très marquant, parce que tu viens à raisonner différemment pour en logique de stock, en staff aussi. Tu as un nouveau staff qui est le staff retail, avec des populations que tu manages de manière aussi différente. Donc, tu t'adresses différemment à ton conso, quand tu es en physique que quand tu es en ligne. Tu dois toujours penser drive to store, parce que ça, c'est fondamental. Donc voilà, tu dois avoir des automatismes qui sont différents, mais l'ouverture de l'adresse, c'est un fait absolument marquant pour toutes les équipes et pour la cliente aussi, qui peut enfin toucher la matière, essayer le vêtement. T'as un taux de retour qui baisse drastiquement parce que lorsqu'elle achète un produit, elle a eu l'occasion de l'essayer. Donc voilà, ouais. Aujourd'hui, c'est encore assez nouveau pour nous. Hein. C'était en septembre.
Ouais, c'est
nous ne sommes que fin janvier, donc c'est récent. Mais en tout cas, c'est très positif et on est ravis de cette ouverture qui est un vrai levier de croissance pour Balzac.
Qu'est-ce que ça t'a fait, le lancement de cette boutique, justement, après 2 ans de réflexion? Tu vois, c'est quelque chose de physique, donc potentiellement, c'est peut-être encore plus, impactant qu'un site web, tu vois, qu'un e-commerce. Comment est-ce que t'étais quand cette boutique a ouvert?
Tu raisonnes vraiment différemment, mais nous, ce qu'on voulait, c'est que l'expérience Balzac, au sens e-com du terme, se retrouve vraiment en physique. Donc, il fallait que dans le parcours client de la conso, elle puisse se balader comme elle se balade en ligne, de manière très fluide, intuitive. C'est ce pourquoi aussi on a organisé l'espace avec un espace qui est dédié à la maroquinerie, avec César en tête, parce que c'est celui qui est représentatif de notre ADN et qui est le vrai, si tu veux, c'est un sac qui est tellement iconique chez Balzac qu'il fallait qu'il ait un mur dédié. Tu te balades dans les saisonniers, ensuite t'as l'espace caisse, t'arrives dans les éternels, t'as l'espace enfant. Et en fait, si jamais tu te retrouves en ligne, t'es pas perdu parce que t'as un parcours client qui est assez similaire. Il fallait que cette boutique aussi, elle soit, qu'elle puisse être, que les éléments soient mobiles. De façon à ce que, au même titre qu'en ligne, si tu vois que tel ou tel produit fonctionne moins bien, tu le pousses sur ta home, tu vas changer des éléments dans ton merch, il fallait que ton merch aussi puisse être très vivant en physique. Ça, c'était un élément fort. Et c'est toute la difficulté et la chance que tu as quand tu pars du e-com pour aller au retail. Tu peux avoir des réflexes qui sont assez différents que, je pense, quand tu arrives du retail vers le e-com.
Ouais, bien sûr. Exactement.
Donc ça, c'était un exercice qui était super intéressant, super challengeant. Et il fallait aussi que tout ce que Balzac ait dans son ADN transpire dans cette boutique au sens sensoriel du terme. Donc il fallait qu'il y ait une vraie expérience autour des cinq sens,
ouais.
Que ce soit évidemment visuel, olfactif, qui passe donc par Honorine, donc notre parfum dont je te parlais, mais par aussi le fait d'entendre en cabine un podcast dans lequel je parle aux clientes, mais qui admet évoluer en fonction de la cabine dans laquelle t'es. Tu n'entends pas le même podcast, donc tu viens chez Balzac, oui, pour ses créations, pour ses vêtements que tu aimes, que tu portes, mais aussi pour vivre une expérience à proprement parler. Parce que Balzac, c'est une histoire d'expérience au sens large du terme. Donc, l'ouverture de cette boutique, pour nous, ça a été un fait très marquant. Et donc, le 7 septembre, lorsqu'on ouvre la première fois la porte à la première cliente, on est surex, évidemment. On est surex. On a envie de voir si jamais l'ouverture de l'adresse sera à la hauteur de nos attentes, sur le plan aussi chiffre d'affaires. Ça l'est, donc on est ravis. Mais c'est une vraie marche qu'on a passée, je
pense. Un vrai step. Ouais.
Un vrai step. La boutique, elle fait 500 mètres carrés. Elle est grande. T'as un espace dédié à l'événement dans lequel tu peux recevoir tes clientes. C'est pas la petite boutique, quoi. C'est vraiment assez statutaire, si tu veux. Donc non, c'est un fait très marquant pour Balzac et qui admet à se déployer. Donc ça, c'est génial.
Avant de passer à la troisième partie de notre échange, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Balzac? Pas financiers, je m'en fous, mais plutôt combien vous êtes aujourd'hui, tu vois, ce genre de chiffres. Et quels sont les objectifs futurs? Est-ce que potentiellement, on verra une marque homme se lancer plus tard? est-ce que tu peux me parler de tout ça?
Bah, quelques chiffres sur Balzac. On était trois à la base, hein. Charles, Victor et moi, je t'en parlais. Donc aujourd'hui, on est 95 en comptant le retail. Donc ça commence à être une entreprise avec un nombre de salariés non neutre. Donc c'est une manière de manager différente aussi. Tu me parlais des grandes étapes de la boîte. Mais ça, c'est vrai que être un manager de 10 personnes vs un manager de 95, c'est des méthodologies qui sont tout à fait différentes.
Passer d'entrepreneur à manager aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est...
Carrément.
C'est des métiers différents.
T'as raison. Et en fait, t'es jamais l'un ou l'autre, t'es toujours les deux. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans ce métier-là. T'as jamais fini d'apprendre, t'as jamais fini de manager tes équipes d'une manière à un moment et puis d'une autre à un autre moment. Donc il faut savoir évoluer, se remettre en question. Je pense qu'on est capable de le faire, mais c'est vrai que c'est tout l'enjeu de ce métier qui est celui d'entrepreneur. Donc voilà pour les chiffres purement je dirais internes, humains. Et puis tu as ensuite une boutique qui est celle dont on vient parler, qui est l'adresse, avec un espace événementiel. Et ça, c'est important parce que ça nous tient à cœur de pouvoir rencontrer les clientes et discuter avec elles. De nombreux pop-up. Tu en as notamment un qui a ouvert à Lyon cet hiver au moment de Noël. Et puis, t'as un parfum, donc qui est admis aussi à grandir, la gamme beauté. C'est un projet sur lequel on travaille déjà, avec en mai la gamme de parfums qui va s'étoffer. Donc, de grands et beaux projets pour Balzac, qui sont aussi l'international, parce que Balzac, aujourd'hui, a plus de 10-15% de ses ventes qui sont faites à l'étranger. Mais je pense qu'on a encore un vrai... boulevard qui s'offre
dans, à dans ces 10-15%, c'est quel pays en premier?
T'as les pays limitrophes qui sont en tête. Le UK, qui est un pays sur lequel on est largement plébiscité, mais t'as aussi des pays qui sont beaucoup plus lointains, tels que les US, le Japon, la Chine. Aujourd'hui, on est en train d'écrire une stratégie inter, mais ça se fait beaucoup aujourd'hui par l'influence, notamment le bouche à oreille, la presse, la couverture médiatique qu'on peut avoir. Et puis, le fait d'avoir une adresse parisienne, ça aussi, ça compte beaucoup, ouais. Si tu veux, sur le plan international, d'avoir une adresse à Paris.
Bah, c'est la French Touch, on va dire.
La grosse notoriété, la French Touch, de par le nom de marque dont on parlait au début, tu vois. Ça, c'est une vraie chance de s'appeler Balzac Paris, parce que tu connais pas, mais tu connais forcément l'auteur. Donc, dans ton imaginaire, ça évoque forcément quelque chose.
Même à l'international.
Ouais, carrément. Donc voilà, sur la partie plus chiffrée, après les projets, ouais, l'Inter, la beauté, il y en a plein d'autres, parce que je te le disais, Balzac, c'est une vraie philosophie de conso, une vraie philosophie de pensée. Donc je pense que Balzac, ça peut être l'homme, ça peut être la déco, mais il faut pas courir plusieurs lèvres à la fois, il faut aussi se concentrer sur ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on fait très bien la femme, on fait bien le parfum, on fera bien la beauté, mais il faut, je pense, offrir une expérience client qui soit la plus léchée possible. Et ça passe aussi par le fait de passer par pied et de bien adresser son marché.
Comme depuis le départ, étape par étape, mais
ouais,
toujours très
réfléchi. Exactement, ouais, tout à fait.
On va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure. Et ma première question, qui est toujours très intéressante, c'est de savoir ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure.
Le plus difficile pour moi dans cette aventure, ça a été de trouver nos partenaires, de trouver les bonnes usines. Je t'en parlais et je n'ai pas à vous en reparler longtemps, mais c'est... Et d'ailleurs, quand des futurs entrepreneurs dans le textile m'écrivent, c'est la plus grande difficulté qu'ils rencontrent, en fait. Aujourd'hui, de trouver le bon partenaire qui t'accompagne d'un point de vue agent et qui te permette d'enfoncer des portes fermées parce que les usines, en plus, avec ce qui s'est passé, la crise du Covid dont on parlait, la guerre en Ukraine, les marques sont en train de rebrousser chemin et de revenir en Europe. Donc, les chaînes de prod sont bien occupées. Et donc, en fait, il y a certaines usines qui disent « affiche complet, merci, mais non merci ». Donc, il faut entretenir une relation sereine, très proche avec tes fournisseurs, tes partenaires, et ça mes équipes le font très bien aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elles soignent, elles ont raison de le faire, parce que avoir un parc fournisseur qui soit aux petits soins pour toi et qui te fasse une place au soleil, c'est une vraie difficulté pour une marque de mode. Et donc, dans toute mon aventure entrepreneuriale, c'est ma plus grande fierté avec mes associés d'avoir réussi à créer un parc fournisseur solide qui fasse qu'aujourd'hui Balzac puisse proposer à sa cliente des produits qui soient durables, désirables, avec un vrai rapport qualité-prix qui soit authentique et vrai. Et ça, ouais, dans mon parcours d'entrepreneur, c'était la plus grande difficulté parce qu'on partait from scratch, on était nobody en fait. Balzac n'existait pas et donc il fallait se faire une place auprès de ses fournisseurs.
Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure du dernier maillon de la chaîne avec la logistique.
Ouais.
Mais cet aspect fournisseur, c'est le premier maillon. Et
exactement.
Sans ce premier maillon, bah, il n'y a
exactement.
Rien derrière. Quoi.
Exactement.
Donc, c'est hyper important.
Et en fait, ton fournisseur, je le disais avec le sac César, mais comme tu grandis, tu grossis avec lui. Il a aussi un certain savoir-faire qu'il acquiert de par le contact qu'il a en garde rapprochée avec tes équipes qui viennent sur place régulièrement, parce que c'est ça aussi la proximité avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie, c'est que tu peux voyager assez facilement. Donc tes équipes sur place, elles font aussi grandir et progresser tes fournisseurs, ne serait-ce que d'un point de vue RSE. Tu vois, on a accompagné pas mal d'usines aussi sur la manière de pouvoir continuer à nous accompagner quand des audits sont faits, pouvoir continuer à bosser avec nous. Il fallait améliorer ça, donc on les a amenés aussi vers du mieux. Et donc, ces usines-là, tu leur files en fait tes bébés. Donc, il faut que ce soit un partenariat win-win et que tu peux puisses avoir pleine confiance en elles. Il y a vraiment une logique de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, une vraie réflexion à avoir sur comment bien ajuster et positionner tes produits.
Ouais, j'avais fait un podcast avec Laure Babin de la marque Zeta. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est une marque de basket fabriquée à partir de raisins.
Okay.
Et du coup, elle m'a raconté pareil les mêmes problématiques qu'elle avait eues au départ pour trouver les bons fournisseurs au Portugal.
Ouais.
Et du coup,
okay.
À côté de Porto aussi.
D'accord.
Je pense que
c'est
autour de Porto, voilà, exactement.
Ouais,
et depuis, elle a créé des collabs avec Nespresso, donc des baskets fabriquées à partir
génial.
De café, etc. Enfin, une marque géniale que je t'invite à aller voir. Et du coup, c'était marrant parce qu'il y a forcément des similitudes avec ce que tu me racontes là. Ma deuxième question pour cette partie bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ?
Alors, ce dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est l'équipe. Être 95 aujourd'hui et me dire que les 95 personnes qui bossent pour nous, c'est grâce aussi à la boîte qu'on a montée à l'époque du haut de nos 20, je ne sais plus quel âge on avait, tu vois, j'ai 37 ans aujourd'hui et on oublie vite. Mais ça c'est cool de dire que quand avec Charles Lévy on s'est dit tiens on va lancer une marque de Neupap et puis aujourd'hui quand on se retourne et on dit qu'il y a 95 personnes qui bossent pour Balzac, on a une adresse, Donc, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, où on sait qu'il faut redoubler d'énergie pour se faire, je le disais, mais une place au soleil, je suis très fière de ça. Donc, je suis très fière de mes équipes. Je suis très fière de l'adresse. Parce que c'est vraiment un bel écrin dans Paris. Nos clientes viennent à nous, c'est un vrai lieu de destination. On est dans un quartier qui est extra, le 9, le 10, ça bouge. Mais t'es allé à l'adresse, donc tu le sais aussi. Il n'y a pas forcément 1000 concurrents qui sont autour de nous. C'est plutôt un quartier qui est dédié au commerce de bouche, à la restauration, qui est en train de bouger et de changer. On voit de plus en plus de boutiques qui s'installent. Mais c'est une grande fierté de me dire que on fait bouger les gens jusqu'à nous qui viennent de tous les quartiers de Paris et au-delà, parce que la province vient à nous aussi. Donc voilà, ça, c'est la concrétisation d'un projet, en fait, cette adresse. Hein. Et puis tu vois, je te le disais, mais c'est pas une petite adresse, quoi. C'est visuellement, si tu veux... On n'a rien à envier aux boutiques de luxe, quoi. Toutes les finitions ont été faites avec soin. On a bossé avec un cabinet d'archi qui s'appelle RMGB et qui a tout fait, mais de manière archi-léchée. Tout est pensé dans une logique implacable. Donc, ça, vraiment, l'adresse, je trouve que c'est c'est à la fois le commencement, mais aussi le point, je dirais, pas final, mais c'est la concrétisation de toute cette aventure qu'on vit maintenant depuis bientôt 10 ans.
Ouais, je comprends totalement. La dernière question pour cette partie, c'est... quel est ton produit préféré chez Balzac? Question difficile.
J'en aime beaucoup. En plus de ça, comme je te disais, je les valide tous, donc je bosse.
C'est quoi celui que tu portes
celui
le plus?
J'emporte. Alors, je suis. Je me mets un point d'honneur et c'est pas du tout que je me force. C'est vraiment avec grand plaisir que je le fais. Apporter au moins un produit Balzac par jour, si ce n'est plus, parce que je trouve qu'on est les meilleurs ambassadeurs de notre marque. Et parler de sa marque, je peux en parler des heures, la preuve en est, mais le porter et en être fier, je trouve que c'est encore autre chose. Donc, voir même les équipes aux couleurs de Balzac, je trouve que c'est comme ça, en fait, qu'on va faire rayonner la marque en dehors des murs de nos bureaux et de l'adresse. Donc, le produit dans lequel je suis le plus fière et que j'aime le plus, c'est César, parce que c'est un sac et je trouve ça difficile pour une marque de prêt-à-pap d'avoir un vrai sac iconique. Je me compare aux plus grands, mais on pense à Hermès avec Kelly, par exemple. Et aujourd'hui, on a beau ne pas avoir de produit Hermès, on sait tous que Kelly, c'est le modèle iconique de la marque de par son histoire. Et c'est ça qui est chouette, c'est que César, chez nous, il a une vraie histoire. C'est un modèle qu'on a imaginé main dans la main avec Maria, qui est ma directrice de collection aujourd'hui et ma styliste accessoire de l'époque. Et il est une vraie, au-delà du savoir-faire portugais dont je te parlais avec la chaîne qui est tressée à la main, c'est un produit qu'on a vraiment imaginé pour son aspect esthétique, mais aussi pour sa praticité dans le fait d'accompagner les femmes. Et Balzac, c'est ça, c'est une marque qui accompagne les femmes au quotidien, de jour comme de soir, qui peut se réinventer au fil des saisons. Et César, ce qui est génial, c'est qu'il existe maintenant depuis de nombreuses années et je ne cesse de le croiser dans la rue sous des styles qui sont tous différents, sous des femmes d'âge différents, plus ou moins jeunes. Et ça, pour moi, je trouve que c'est là que je me dis que Balzac a réussi à s'imposer dans le vestiaire des femmes et dans le cœur de celles-ci, parce qu'un sac à main, c'est un objet qu'on chérit, qu'on range, qu'on ressort, dont on prend soin. En plus, là, on vient de sortir une gamme d'entretien et on peut bichonner son César et ses autres sacs à souhait. Mais voilà, ouais, s'il y a un produit, et il y en a plein, mais celui-ci, je l'adore.
C'était une question difficile.
Ouais, c'est une question difficile.
On va pouvoir passer à la partie rencontre et entrepreneuriat, un peu plus global, on va dire. Alors je sais que les rencontres, il y en a plein dans une aventure, mais est-ce que tu peux m'en citer une et m'en parler d'une qui potentiellement t'a marqué dans ces dernières années chez Balzac?
Alors, il y en a plein. J'aimerais t'en parler de beaucoup. du coup, je vais... La liste est non exhaustive. Dernièrement, on a rencontré un monsieur qui a lancé un projet et avec qui on fait des sacs, Nokaba notamment. Léopard, que vous avez peut-être déjà vu parce que on le voit beaucoup à Paris, en province, peut-être que même à Rennes. Bah voilà, ça m'étonne pas que ta copine en ait un. Et en fait, ce projet, il est fait avec les tissages de Charlieu. Et il est fait, il est 100% recyclé et 100% français. Et en fait, c'est un collectif d'entrepreneurs qui ont imaginé qu'en fait le coton de demain était celui qu'on avait aujourd'hui dans nos dressings. Et donc il y a une machine qu'on allait visiter il y a pas longtemps avec Charles et Marie-Emmanuel qui est ma directrice de collection, et Charles donc c'est mon associé. Et en fait cette machine, elle peut entièrement prendre le coton existant de vos blouses, vos chemises, vos robes et j'en passe, et détisser entièrement, et j'ai certainement pas le bon wording, la fibre pour en recréer entièrement une nouvelle. Et donc c'est une vraie prouesse, je dirais, sur le plan technique, parce que on part d'une matière qui est complètement nouvelle, du coup, tout en partant de produits existants. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est une innovation qui est très smart, parce que en effet, on l'a vu, le coton, c'était une matière qui a été un peu mise à mal ces dernières années, de par le réchauffement climatique, la hausse des prix, alors que c'était pourtant une matière dont on pouvait se la procurer hyper facilement. Et se dire qu'en fait, le coton de demain, c'est celui qui en fait aujourd'hui qui existe dans nos vestiaires, je trouve que c'est au-delà d'être très smart, c'est hyper responsable. Et donc c'est un projet qui me parle beaucoup. Donc voilà, ça c'est un beau projet. Après il y a d'autres personnalités, il y a Nathalie Bala anciennement Redoute, qui a remonté la Redoute, que j'ai rencontrée parce qu'on a collaboré avec la Redoute sur 3 collabs, le prêt-à-porter, le mariage et la déco, c'est toujours en cours. Mais je trouve que c'est une femme qui a de grandes convictions, qui a su aussi remettre à flot une très belle boîte qui, moi, me parle parce que je suis nordiste, je suis lilloise. Et donc, ça fait partie de mon imaginaire, enfin, de ma culture lilloise depuis que je suis petite. Qui n'a pas mis des croix dans tous les catalogues de la Redoute? Donc, je trouve ça vraiment bien ce qu'ils ont fait, ne serait-ce qu'en déco. Aujourd'hui, c'est une marque qui compte et qui a une très belle image. Et puis, Nathalie a de belles valeurs. Donc, voilà. Et après, il y a une autre entrepreneur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charlotte Müller. Charlotte, elle était une ancienne avocate et elle a monté un centre, de pratique de yoga de la fertilité qui nous vient des États-Unis. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça a augmenté. Enfin, elle s'est rendue compte, elle est allée aux États-Unis et elle a très certainement pratiqué le sujet de près. Mais en fait, le yoga de la fertilité augmente de manière significative la chance de réussite lorsqu'on fait une FIV pour avoir un enfant. Et donc, Charlotte, elle a tout plaqué sa carrière d'avocat pour se lancer à plein temps dans ce projet qui est le yoga de la fertilité, mais avec une vision très business aussi. Parce que elle en a fait quelque chose de très malin au-delà de sa pratique, parce qu'elle est elle-même professeure de yoga. Elle a un accompagnement, si tu veux, sur le digital, parce que tu peux faire tes cours en ligne. Elle a un studio qui est dédié à ça. Elle a des produits dérivés qui sont sans perturbateurs endocriniens. Elle a un vrai business univers autour de ça. Mais au-delà du business, elle a sensibilisé des femmes au fait que il y avait évidemment la médecine qui nous aidait considérablement dans ces projets de bébés, mais aussi qu'on pouvait se faire accompagner de manière plus douce. Et donc Charlotte, vraiment, je t'invite à la contacter parce que elle est assez surprenante et elle est pleine d'énergie. Donc voilà, il y a plein de personnes comme ça qui m'inspirent au quotidien. Il y a plein de projets aussi, mais spontanément, c'est comme les questions ne sont pas données avant, c'est ceux qui me viennent
en
fait.
Tu vois, je t'ai demandé une rencontre, donc tu m'as très bien répondu à ma question et tu m'en as même donné plusieurs, donc très cool. Et pour le sac Kappa, du coup, très bien, j'ai l'histoire du coup de ce sac.
Ouais, c'est chouette, c'est chouette, c'est une vraie histoire.
Du coup, la technique derrière, c'est génial.
C'est génial.
Vraiment top. Dernière question pour cette partie, c'est est-ce que tu as le fameux conseil, cette question qui peut parfois paraître bullshit, mais là, potentiellement, ce serait de préciser sur le côté mode. Quelqu'un qui veut lancer une marque dans la mode, c'est quoi pour toi la chose la plus importante à savoir?
Alors, c'est pas bullshit dans le sens où j'ai des questions tous les jours de personnes qui veulent lancer leur marque et en réalité, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et je me dis d'ailleurs qu'un
global.
Et puis je me dis un podcast dédié, tu vois, avec des créateurs de marques de vêtements où les gens pourraient venir poser leurs questions, ça a peut-être déjà dû exister, mais je pense que ça pourrait faire sens. Nous chez Balzac, on imagine même parfois faire des tables rondes en fait où des étudiants pourraient venir nous poser leurs questions parce qu'on a tellement tous les jours qu'on n'arrive pas à répondre à toutes. Donc Est-ce que ma réponse va être révolutionnaire? J'en suis pas certaine, mais en tout cas, elle est sincère. Je pense que une bonne association, c'est la clé de beaucoup de choses. Vous en êtes la preuve très certainement parce que vous êtes tous les deux associés, donc vous savez de quoi je parle. Mais choisir ses associés, avoir un pacte associé qui soit dédié à cette association, mettre de côté aussi les questions qui fâchent. On sait que l'argent s'en est et il faut très vite en parler et puis voir comment on se répartit les parts en fonction de l'investissement de chacun et puis l'investissement financier également. Donc voilà, il y a ça, avoir à choisir des bons associés. Alors après, tout le monde peut se tromper et puis on a le droit d'avoir choisi le mauvais et de se séparer et ça ne fera pas de notre aventure un échec, loin de là, j'imagine. Mais je crois que c'est la clé du succès parce que dans des moments de doute, dans des moments de victoire, c'est bien de pouvoir les fêter et puis c'est bien de pouvoir aussi se reposer sur les épaules de quelqu'un quand toi t'es un peu down et que l'autre il a la grinta. Donc voilà, il y a ça. On a toujours peur de parler de son projet entrepreneurial parce que est-ce qu'on va nous piquer l'idée, etc. En fait, je pense qu'il faut se nourrir des autres et aller questionner un max, essayer de poser des questions à des gens où tu te dis il me répondra jamais, quand bien même c'est pas grave, au pire ils te répondront et donc t'auras tout gagné. En fait, il faut 5 personnes pour aller atteindre la personne qu'on veut atteindre, donc c'est très peu. Même si tu veux Michelle Obama, peu importe. En fait, si tu regardes dans tes contacts, tu peux aller toucher qui tu veux. Donc sky is the limit et rien n'est impossible. Il faut croire en ses rêves et ça paraît peut-être béaba de dire ça, mais je pense que c'est assez vrai. Et j'ai le sentiment que la nouvelle génération, elle a cette espèce de foi en je vais tout plaquer, puis je vais lancer mon projet, et de toute façon, c'est tout ce qui m'anime, et j'ai pas envie d'être coincée dans un bureau. Il y a une vraie nouvelle façon de penser. Donc,
génération rebelle, un peu.
Ouais, un peu, quand même. Hein. Alors, génération rebelle, un peu, mais il faut pas oublier que le fruit de tout ça, c'est beaucoup de travail aussi.
Ah oui, bah c'est clair. Exactement.
Le fruit de tout ça, c'est beaucoup de travail aussi, rien n'arrive au hasard. Et il faut y aller un peu à la sueur de son front et mettre de temps en temps des choses qui sont parce qu'il y a beaucoup, tu sais, on parle beaucoup d'équilibre pro et perso et je pense qu'on finira et on finit tous par le trouver, mais dans un projet entrepreneurial c'est normal qu'à un moment il soit bafoué. C'est comme quand tu veux atteindre le poste de tes rêves, même si t'es en interne, parce qu'on parle d'entrepreneuriat aussi, c'est ok en fait d'avoir un moment de ta vie où tu vas pas rechigner à la tâche et bosser plus qu'un autre pour aller atteindre ce que tu t'es fixé.
Complètement aligné là-dessus.
Donc voilà, donc je pense que faut bosser les gars, quoi. En fait, c'est ça, le conseil.
Beaucoup de sacrifices derrière cette typologie d'aventure.
Ouais.
C'est aussi l'objectif du podcast, c'est de retracer toutes ces aventures. Elles sont toutes différentes, elles sont toutes uniques.
Ouais, carrément.
Il n'y a rien qui est duplicable, mais quand même, c'est intéressant de savoir tout ça, tu vois.
Ouais, et puis il faut jouer des opportunités, parce qu'en fait, il y a souvent des opportunités qui s'offrent à soi, il faut les saisir. Rien n'arrive au hasard. Je crois beaucoup au destin, donc il faut absolument saisir sa chance quand elle se présente et oser sauter dans le vide, quoi. On en parlait tout à l'heure.
C'est
avec
ça.
Parachute, c'est possible.
C'est mieux.
Ouais, c'est mieux.
En side project, c'est parfait.
Ouais, c'est vrai.
On passe du coup à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, le temps d'y répondre. Il n'y a toujours, encore une fois, pas de piège. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Ah. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Je passe du temps avec mes enfants et mon mari.
Ok, très bien. Est-ce que tu as un livre à me conseiller?
Qu'est-ce que je vais te conseiller en livre? Ah, on a parlé d'un qui avait l'air génial, mais j'ai pas le titre en entier. L'architecte de... Faudrait que je te le retrouve, je te le renverrai par mail sinon. Et c'est un livre qui montre à quel point tout ce qui est ancré en nous et fortement et intimement lié à nos ADN et donc à notre patrimoine génétique. Et c'est mon beau-père qui nous en a parlé à mon mari et moi l'autre jour, et ça m'a pas mal branchée. Après, femme puissante, c'est pas mal. J'ai vu un homme l'autre jour qui lisait Sorcière dans le train, ça m'a fait marrer, parce que c'est un livre qui est hyper féministe, et donc je me suis dit que c'était cool que les hommes le lisent aussi. J'en ai entendu parler, je l'ai pas lu. Mais voilà, spontanément ce qui me vient.
Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
C'est
le dernier truc que tu as regardé.
Je vais vous faire rêver si je vous dis Emily in Paris ou pas?
T'as le droit, c'est autorisé.
Et alors,
on portera pas de jugement.
Emily in Paris, of course, parce qu'au-delà de bien me marrer devant la série,
il y a ce côté mode aussi, du coup. Ouais.
Alors déjà, alors ça c'est hallucinant. Les gens sont complètement geeks de cette fameuse Emily. Ils ont geeké combien ça lui coûterait vraiment de porter ce qu'elle porte dans une journée et qu'en réalité c'est impossible parce qu'avec ce qu'elle gagne, elle pourrait pas. Enfin, je me dis, les gens ils ont que ça à faire. Mais c'est amusant. Et là, en fait, j'ai pas, dans la dernière série, il y a la marque Ami, notamment, qui a un vrai passage dédié. Et c'est là que tu dis la puissance d'un Netflix et d'une Emily in Paris. Donc, mon goal, c'est d'être présente dans cette série. Après, une série que j'aime beaucoup, c'est, et pour son esthétique, c'est The Crown. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, un peu moins la 3, parce que je trouve que Lady Di, que j'aime beaucoup, elle a une place qui est un peu, comment, controversé, en tout cas, je trouve qu'il lui donne pas un rôle, ceci dit, celui qu'elle a eu très certainement, mais voilà, j'ai été un peu chiffonnée par ça, mais c'est vrai que je trouve que toute l'esthétique de la série, et tu parlais de mode, mais même sur le plan mode, elle est hyper inspirante. Et puis la famille royale me passionne, donc j'ai beaucoup aimé.
Trop bien. T'as lu le livre, du coup? Non, pas encore.
Non, pas encore. Pas encore. J'ai regardé okay. Harry et Meghan sur Netflix aussi, mais j'ai pas encore lu le livre. Ouais.
Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange?
Est-ce que moi j'ai le droit de te poser une question en retour?
Tu peux, ouais. Complètement, reverse.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir m'interroger? Qu'est-ce qui t'a donné envie chez Balzac?
Ben écoute, déjà j'ai très apprécié les produits Balzac que j'ai offert à ma copine, du coup.
Ouais.
Ma copine appréciait déjà beaucoup la marque et puis du coup je m'y suis intéressé. Où j'ai regardé voilà le site, les produits. J'ai bien aimé le. Il y avait un visuel tigre.
Ouais.
J'aime beaucoup les tigres.
D'accord.
L'agence de podcast s'appelle
succédé.
Tête de tigre.
Mais oui. C'est vrai.
Et j'avais beaucoup apprécié. Du coup, j'avais acheté le t-shirt notamment. Et donc c'est pour ça que je voulais en savoir plus. Je voulais te rencontrer et discuter avec toi pour en savoir plus, tout simplement. Voilà.
D'accord.
Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes? Alors, tu en as déjà cité une.
Charlotte Muller, ça pourrait être intéressant que tu la questionnes. La Belle Expérience, tu connais?
Non.
C'est la boîte avec laquelle on a fait nos bureaux. Donc là, vous êtes au 4e, mais on a aussi le 5e en haut qui est hyper chouette. Et c'est une team qui est extra. Elles ont des projets qui sont canons, divers et variés. Elles nous en parlaient l'autre jour, mais elles vont faire des boutiques, elles font des bureaux. Là, elles ont un projet avec le petit ballon, c'est le vin, pour faire une expérience sensorielle autour du vin. Donc, je suis sûre qu'elles auraient mille choses à te raconter. Et c'est assez smart, en fait, la façon dont elles ont inventé justement des projets d'architectes, mais au sens... vraiment la Belle Expérience, c'est une marque, tu vois, c'est un vrai label comme son nom l'indique. Donc ouais, je pense que ça pourrait être des bonnes invités pour toi.
Ok, bah écoute, je note. Et ma dernière question que je pose sur chaque épisode, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur?
C'est quoi pour moi une ou un entrepreneur? C'est un passionné, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour sa boîte, qui est prêt à encaisser aussi, qui est prêt à prendre des coups et à accepter les critiques. Que ce soit d'investisseurs potentiels chez qui tu mets ton dossier sur la table, de personnes en interne, parce que personne n'est parfait, et donc tu as forcément des axes d'amélioration. Et puis, vraiment, la passion, c'est ce qui anime un entrepreneur, je pense. Et puis, quelqu'un qui est fondamentalement tourné vers les autres, parce que entreprendre, c'est si jamais tu as envie de faire grossir ta boîte, c'est donc recruter. Et donc, c'est l'humain qui devient au cœur de tout. Et ça, c'est clé en fait, hein, ta marque et ta boîte, elle marche aussi par les hommes qui la composent et qui en font aussi les meilleurs ambassadeurs, parce que c'est eux qui parlent de ta boîte et ta marque employeur, elle est fondamentale. Donc voilà ce qui fait un entrepreneur, je pense.
Ouais, bah écoute, ça va être les mots de la fin. Je pense que effectivement, le côté humain, c'est la chose en même temps la plus difficile et celle qui t'envoie le plus de love. Mais donc voilà, c'est quelque chose de très, très équilibré.
Dans la vie comme au boulot.
Ouais. Exactement. Exactement. Donc je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était très cool. J'espère
avec
que ça
plaisir.
T'a plu.
Ouais, non, c'était chouette. Merci beaucoup.
Et puis je suis convaincu que ça va plaire et que toi qui nous as regardé ou qui nous as écouté, ça t'a plu aussi. Merci beaucoup.
Merci à toi. À bientôt.
Ciao, ciao.
Au revoir.